En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue les curieux, on est ensemble jusqu'à 15h comme chaque week-end sur RTL pour le meilleur de la curiosité.
Je voulais dire et pour le pire, bonjour Sidonie,
oui,
non, vous m'avez parlé quand même.
J'ai hésité, mais non, pas aujourd'hui, c'est dimanche quand même.
Bonjour moi Thomas.
Ça va bien?
Oui, ça va bien, salut à vous, soyez les bienvenus dans la seconde partie de l'émission. C'est un génie de la musique, un guitariste virtuose, ça fait plein de notes ça, qui nous donne rendez-vous Django Reinhardt.
Oui, au moment de la sortie au cinéma d'un film qui lui est consacré avec Reda Kateb et Cécile de France, on va vous raconter comment ce manouche, né dans une roulotte en Belgique, est devenu une star mondiale du jazz.
Alors il y a les bricoleurs du dimanche, les jardiniers du dimanche et aussi les chercheurs du dimanche. Vous ne savez pas ce que c'est? Restez à l'écoute, on part à leur rencontre dans la curiosité.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Vous faites peut-être partie de ceux qui observent les étoiles et pas seulement au cinéma comme dans Star Wars, qui analysent la température extérieure, qui font attention à tout ce qui se mange. Eh bien, sachez que ces petites habitudes peuvent aider la recherche, la science, et c'est Julien Solonel du Parisien Magazine aujourd'hui en France qui va nous en parler. Vous allez bien?
Très bien, oui.
Qui sont-ils? Des hommes, des femmes?
Oui, alors c'est des hommes, des femmes, il n'y a pas vraiment de profil type, mais ce sont ces passionnés qui, bénévolement, sur leur temps libre, font des recherches, collectent des informations qu'ensuite ils transmettent à des chercheurs professionnels.
Alors, vous avez évidemment fait des rencontres, et ces rencontres, on va les vivre avec vous, Julien. Par exemple, Emmanuel, quelle est sa passion?
Alors, Emmanuel, lui, son truc, c'est de scruter le ciel et en particulier les étoiles, que ce soit avec un télescope ou avec, à travers son ordinateur. Et donc, lui, il est vraiment branché par l'astronomie.
Son vrai métier, c'est quoi?
Il est ingénieur en informatique. Donc, comme ça, c'est pas trop dans les étoiles, mais il a aussi cette passion.
Alors, il fait quoi de son temps libre? Ça s'organise comment, tout ça, cette passion?
Alors, il a fait plein de choses. Il a monté, par exemple, un club amateur d'astronomie. Donc, il se réunit avec ses amis et il regarde les étoiles. Et sinon, il participe à des programmes d'études. Donc, par exemple, il y en a un qui s'appelle Supernova Taro, où en fait, il regarde des images d'explosions d'étoiles qui ont été filmées par les télescopes. Et lui, il regarde dans les moindres détails. C'est un vrai travail de fourmi. Mmh.
Mais alors, il regarde et il fait quoi? Un rapport pour les scientifiques?
C'est ça, exactement. Lui, il regarde. Il a comme déjà regardé 500 000 photos. Donc, c'est un chercheur du dimanche, mais qui quand même bosse plutôt pas mal. Et donc, ensuite, il envoie des informations aux scientifiques qui, eux, après, les traitent, les analysent et en tirent des conclusions.
Mais à quel âge il a commencé à s'intéresser aux étoiles? C'est une passion de jeunesse ou c'est une passion tardive?
Non. Alors, lui, pour le coup, il est vraiment tombé dedans quand il était petit, parce qu'il nous a raconté que dès 12 ans, il était chez lui avec des jumelles à scruter le ciel pendant des heures et un vieux manuel d'astronomie qu'il avait retrouvé dans son grenier. Donc ça fait longtemps qu'il scrute le ciel.
On a tous des passions comme ça qu'on pratique le week-end sans forcément en parler ou en faire profiter la science. Comment il a eu l'idée d'en faire profiter les scientifiques et d'entrer dans un programme?
Alors c'est une histoire assez rigolote. C'est il y a quelques années, il devait observer une éclipse totale à Reims, l'observer et la filmer. Et donc, le jour dit, en fait, il a rien vu. Il ne s'est pas passé ce qu'il attendait. Pas d'éclipse, rien. Pas acquis de conscience, que quand même, il est très, très consciencieux. Ce qu'il avait filmé, il l'a envoyé à un scientifique qui, lui, a vu une éclipse partielle qu'avec son œil d'amateur, il n'avait pas vu. Mm-hmm. Et donc, c'est ça qui lui a fait comprendre que, voilà, avec des petites observations, il pouvait faire avancer la science.
Et il pouvait aller encore plus loin. Est-ce qu'il faut un matériel particulier pour ce type de chercheur du dimanche, mais d'une manière générale aussi?
Non, d'une manière générale, c'est d'ailleurs un des atouts et ce qui explique le succès, c'est qu'il n'y a pas besoin d'un gros matériel high-tech, il faut juste des capacités d'observation, de la curiosité et un peu de rigueur.
Est-ce que c'est une relation qui va que dans un sens, unilatérale, c'est-à-dire c'est le chercheur du dimanche qui apporte aux scientifiques et basta, ou alors ce chercheur du dimanche, il se frotte aussi aux connaissances et au savoir-faire de ces scientifiques?
Au contact des scientifiques, ils apprennent forcément. Ce que nous dit Emmanuel, par exemple, c'est que lui, il a l'impression de bénéficier de cours gratuits avec des professionnels, parce que quand il envoie ses informations, il échange, on lui fait des retours, et donc ça lui permet aussi de progresser.
Et les programmes scientifiques, pourquoi recherchent-ils comme ça des chercheurs du dimanche parce qu'ils ont du matériel, ils ont des ordinateurs super puissants, ils ont tout ça.
Bah, par exemple, là, pour le programme Supernova, c'est toujours intéressant d'avoir des milliers de personnes qui, partout dans le monde, regardent ces explosions d'étoiles d'endroits différents. Donc en fait, ça fait pas une main-d'œuvre, mais vraiment des sources très très nombreuses qui peuvent leur donner les infos.
Et pourtant, cette initiative et cette participation des chercheurs du dimanche à la science n'a pas toujours plu. On vous raconte pourquoi sur RTL. RTL. RTL.
Je cherche une femme pour sauver mon âme.
Je reviens te chercher.
La curiosité est un vilain défaut.
Je vais te chercher. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On peut chercher le garçon ou la fille, Taxi Girl, Guy Marchand, Gilbert Bécaud, Chimène Badi. On peut aussi chercher dans toutes les directions pour aider les scientifiques, et c'est le thème de notre curiosité. Les chercheurs du dimanche, est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'on peut les comptabiliser?
Alors le chiffre exactement, c'est compliqué. On sait qu'il y en a de plus en plus. À titre d'exemple, il y a une étude, il y a 5 ans, il y avait 23 000 participants. 5 ans plus tard, il y en avait 50 000. Donc c'est sûr que c'est quelque chose qui se développe.
Est-ce que les enfants peuvent participer aussi à ces programmes scientifiques?
Oui, ça existe. Il y a des recherches qui... ou des associations comme les Petits Débrouillards qui font participer des enfants.
On se dit, bon, ils sont de plus en plus nombreux, ils aident, ils observent. Là, vous nous avez parlé d'observation d'étoiles, d'éclipses, etc. Mais est-ce qu'il y a de vrais succès scientifiques qui ont été obtenus grâce à ces chercheurs du dimanche, à leur participation?
Oui, effectivement, ils ne font pas que donner des infos. Des fois, ça a permis de faire avancer des choses. Notamment, il y a un jeu en ligne qui s'appelait Fold It, qui a été lancé par des chercheurs de l'Université de Washington. C'est en fait un espèce de puzzle sur ordinateur en beaucoup plus compliqué, auquel des participants du monde entier ont joué. Et ça a permis de découvrir une protéine qui dans le cas de la transmission du virus du sida, a été identifiée.
Donc alors j'ai du mal à comprendre comment à partir d'un jeu de puzzle on arrive à identifier une protéine, mais
c'est de la science.
Ouais, c'est pour le coup le puzzle est très compliqué, mais effectivement ça a permis d'aboutir.
D'accord.
Là-dessus.
Bon.
Alors ces chercheurs du dimanche, au début on les a vus d'un mauvais œil. D'autres scientifiques qui n'ont pas apprécié que des amateurs se mêlent un peu de leur noble matière.
C'est ça exactement. Les scientifiques au début, ils n'étaient pas très très ravis d'accueillir des amateurs même éclairés dans leur laboratoire ou qui viennent se mêler un peu de leur recherche. Donc au début, ils étaient un petit peu réticents, etc. Et au final, quand ils ont vu tout ce que ça leur apportait et puis que finalement, il y a extrêmement peu d'erreurs, ils sont plutôt preneurs maintenant.
Puis ça coûte rien en plus.
Oui, en plus, c'est gratuit.
Ça fait toujours plaisir.
Ouais, mais est-ce que c'est une conséquence, pour le coup, bénéfique de la révolution numérique?
Oui. Parce que on peut dire que ces chercheurs du dimanche, ils existent depuis toujours. C'est un peu les héritiers des naturalistes du XVIIIe siècle. Mais ce qui a permis cette explosion, c'est effectivement Internet qui permet de diffuser l'information hyper rapidement, de recruter des gens du monde entier. Donc ça explique que ça se développe comme ça.
Là, on est en train de donner des idées, des envies, hein, je trouve, à d'éveiller la curiosité de nos auditeurs.
Mais je vois des exemples
mais
de missions.
Est-ce qu'il y a d'autres missions, à part découvrir des étoiles qui explosent, qui est déjà formidable, d'autres missions auxquelles on peut se frotter?
Ah bah oui, il y a des études un peu sur tout. C'est impressionnant. Par exemple, on peut observer des photos d'un parc animalier en Tanzanie, on peut classer les galaxies, on peut déchiffrer...
Des exoplanètes, tiens.
Oui, déchiffrer des textes manuscrits datant de l'époque de Shakespeare. Et une dernière que moi j'aime bien, c'est on peut même compter les bigorneaux sur les côtes bretonnes l'été.
Ah, mais c'est pour moi ça.
Oui, mais c'est...
J'aime tellement ça.
Oui, bah vous avez mais ça
on les
à
compte...
faire l'été.
Mais non, bah oui.
Compter les bigorneaux.
On s'arrête tout en fait. On commence où, on s'arrête tout quand on compte des bigorneaux?
L'idée, c'est une demi-journée par exemple de compter les bigorneaux. Ouais. Et c'est pour montrer l'évolution de la biodiversité. Est-ce qu'il y en a moins que l'année précédente?
Ah, ouais.
Pourquoi, etc.
Mais... Je vais réfléchir.
Et c'est notre naturaliste préféré, Marc
Giraud, ouais.
qui nous dit souvent effectivement que l'observation de la nature, plus il y a de fous pour le faire, plus on rit. Tiens, par exemple, Barbara, que vous avez également rencontrée, Julien Solonel, elle fait quoi pour la science, elle?
Alors, elle compte les insectes. Alors, on compte beaucoup. Elle se rend une fois par mois, une après-midi, dans un parc au cœur de Rennes. Elle se poste devant des plantes à fleurs et pendant 20 minutes, elle a son appareil photo numérique. Pendant 20 minutes, elle photographie les abeilles, libellules, tous les insectes qui se posent sur ces fleurs.
Et ensuite, elle fait quoi, des photos ?
Ensuite, elle les envoie aux scientifiques référents qui mènent l'étude. Et l'idée, c'est de voir comment l'urbanisation ou le réchauffement climatique influent sur la pollinisation et les insectes pollinisateurs.
Dernier exemple, rapidement, qui est passionnant. Vous avez rencontré Serge. Lui, il note tout ce qu'il consomme, tout ce qu'il mange et tout ce qu'il boit. Pour qui Pourquoi faire ?
Alors, c'est pour une étude qui s'appelle Nutrinet, qui est suivie par 260 000 personnes, donc c'est énorme. Et donc, en fait, pendant 3 jours, il note effectivement tout ce qu'il mange. Ça va de son entrée, son café, son verre d'eau. Et l'idée, c'est d'étudier sur une cohorte assez importante et sur les années, les comportements alimentaires des Français.
Et tout de suite, dans la curiosité, la vie, le destin, l'œuvre d'un immense musicien, Django Reinhardt.